Avec le livre Reine d'Afrique, héroïne de la diaspora noire, je voulais montrer au monde une autre image des femmes africaines et des femmes noires en général. Parce que souvent, l'image qu'on en a aujourd'hui, que ce sont des femmes effacées, qui ne participent pas vraiment à des décisions, qui sont écrasées par des situations de misère, de désespoir. Et j'ai voulu montrer à travers ce livre que dans le passé, dans des temps très anciens et juste avant la colonisation, dans plusieurs pays différents de l'Afrique, parce que mon livre présente 22 portraits de femmes de pays différents, Afrique du Nord, du Sud, de l'Ouest, de partout, dans des pays différents, dans des sociétés différentes, les femmes africaines ont souvent occupé des rôles qu'on ne soupçonnait pas. Il y en a qui ont dirigé des royaumes par elles-mêmes. D'autres qui étaient dans l'armée, comme les Amazones du Dahomey, qui étaient des guerrières. Il y a eu des femmes résistantes. Il y a eu des femmes qui ont eu des activités commerciales importantes et qui avaient une autonomie financière. Et ça, les gens n'imaginent pas ça quand on parle de la femme africaine. Donc, c'était à la fois pour montrer au monde occidental cette image de la femme africaine et pour montrer aux Africaines d'aujourd'hui que elles se battent pour essayer d'avoir un peu de pouvoir, mais leurs ancêtres avaient ce pouvoir qui a été perdu au fil de l'histoire. Donc il faut se battre deux fois plus pour retrouver quelque chose qui a existé et non pas quelque chose à créer. C'est un peu mon objectif dans ce livre.
Donc les femmes africaines qui ne sont pas que des victimes.
Oui, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé et dans chaque pays, dans chaque culture, les femmes prennent de plus en plus d'importance, surtout depuis les mouvements féministes qu'il y a eu dans les années 70 en Europe et aux États-Unis. Et même les institutions internationales, comme les Nations Unies, ont commencé à vouloir qu'on mette les femmes un peu plus en avant, qu'on leur donne un peu plus de pouvoir de représentation dans les sociétés et dans la vie politique. Et ce que je voulais montrer, c'est que l'Afrique n'avait pas attendu ces années-là, le féminisme, et qu'au XVIIIe siècle, au XIVe siècle et bien avant, il y a eu des femmes dans des pays africains qui occupaient déjà ces rôles-là. Donc maintenant que nous sommes dans un monde de globalisation, il faut aussi montrer que ces femmes africaines qu'on montre totalement dépendantes des événements, qui sont obligées souvent de s'expatrier pour des emplois de misère, si elles avaient plus confiance en elles et si elles avaient plus de promotion de tout ce qu'elles ont, leur savoir-faire, leur combativité, leur courage quand elles entreprennent, peut-être qu'elles resteraient davantage dans leur pays pour participer au développement. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent, même dans l'informel, ou qui sont formées, qui ont de l'éducation, qui ont des hautes compétences, mais elles ne sont pas visibles, on ne les met pas en avant. Et je pense que si on les encourageait davantage, ça donnerait une autre mentalité et ça donnerait une autre force à ces pays pour se battre, pour développer eux-mêmes leur pays, au lieu d'aller à l'étranger, souffrir aussi à l'étranger.
On dit que le féminisme africain est différent du féminisme européen.
Moi, je pense qu'il existait un féminisme africain avant le féminisme occidental. Parce que quand on prend des femmes comme la reine Anzinga, qui a dirigé en Angola son royaume pendant 30 ans, et elle a résisté aux troupes portugaises pendant 30 ans, jusqu'à l'âge de 82 ans. Cette femme, en Angola, au XVIIe siècle, a développé des activités économiques, a mis les femmes au travail, a fait venir des Portugais pour enseigner, pour que les femmes de la cour puissent apprendre des langues européennes, pour être au même niveau. Moi, je considère que c'était une grande féministe, et c'était au XVIIe siècle. Quand je prends ces grandes commerçantes africaines du 19e siècle, qui peut-être à l'âge de 6 ans vendaient de la bouillie sur les routes ou dans les marchés, et qui se retrouvent quelques années après à développer la production d'huile de palme et à exporter vers l'Angleterre au 19e siècle, ça c'est un exemple de féminisme. Quand je prends ces guerrières, ces femmes dans l'armée du Dahomey qui étaient les combattantes d'élite, hein, qu'on mettait toujours au premier rang dans les batailles, parce qu'elles voulaient défendre leurs enfants, elles voulaient défendre leur société. Ça aussi, ce sont des exemples de féminisme. Mais après, le féminisme occidental, donc avec les colonisations, avec l'arrivée des religions qui estimaient que les femmes ne devaient pas être mises en avant, il y a eu une perte de ce féminisme africain. Et quand, dans les années 70, il y a eu officiellement une reconnaissance de la femme grâce au mouvement féministe et aux Nations Unies, on a voulu redévelopper un féminisme africain, mais en partant de la notion occidentale du féminisme. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si ça a vraiment pris en Afrique. Et les femmes qui se déclarent féministes aujourd'hui ne sont pas toujours bien considérées par leur société.